Le journal vous est donc présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. C'est un baobab qui est tombé. Hommage est ainsi rendu à Idrissa Ouédraogo, cinéaste majeur de l'Afrique subsaharienne qui est mort aujourd'hui à Ouagadougou à l'âge de 64 ans. Les autorités britanniques se donnent les moyens de combattre la montée de l'islamophobie. Opération Portes ouvertes dans les mosquées, reportage à Londres. Les patriotes à Arras versus le Front National à Laon. Les extrêmes droites françaises se toisent à distance. Anne Fauquemberg a suivi Marine Le Pen et sa cosmétique refondation. À la fin de ce journal, nous serons en ligne également avec le politologue Jean-Yves Camus. Le mécano des âmes n'est plus. Idrissa Ouédraogo s'est éteint au terme d'une brillante carrière, abondamment récompensée, bien au-delà des frontières de son Burkina natal. Cinéaste marqué par les conséquences de la colonisation, il aura illuminé l'enfance, rendu de si beaux hommages aux travailleurs, sondé la colère des dieux, grâce à un style sobre, limpide et à des cadrages impeccables. Bonsoir Eva Gédenac.
Bonsoir.
Eva, on va parcourir avec vous le chemin d'Idrissa Ouédraogo, mais avant toute autre chose, on va l'écouter.
La perception du cinéma, c'était que le cinéma participe au développement socio-économique du Burkina Faso. Donc très tôt, je m'étais orienté à faire des films, parce que le Burkina avait une structure à la direction du cinéma pour pouvoir transporter l'image chez les paysans. Il y avait des cinébus ambulants. Comment filtrer l'eau, comment lutter contre le paludisme, enfin des choses comme ça. Mais même si, effectivement, le moustique en cinéma est un moustique en très gros plan, qui n'est pas le même que les paysans en voient et reconnaissent, mais on pensait que ça pouvait aider les paysans, 95% de la population, à lutter contre le paludisme, à lutter, à filtrer l'eau. Donc c'était le but de mon engagement cinématographique.
Voilà Eva, on a là les préoccupations du cinéaste. Y a-t-il d'ailleurs un style Ouédraogo ?
Dès le début de sa carrière dans les années 80, Idrissa Ouédraogo montre sa volonté de se démarquer d'un cinéma pédagogique, politique, pour se concentrer sur l'intime et retranscrire la beauté du quotidien. Pour Olivier Barlet, critique de cinéma, africulture et historien des cinémas d'Afrique, il est passé d'un cinéma du « nous » à un cinéma du « je ».
Il portait un nouveau type d'approche, que je dirais volontiers une approche du quotidien, une approche plutôt du domaine du roman. C'est la question de la responsabilité, c'est la question de comment on se situe par rapport à la tradition, comment on exclut ou on n'exclut pas des personnages marginaux, etc., qui va se poser.
Et ce sont des thèmes portés à l'écran à travers une image soignée qu'Olivier Barlet décrit comme la recherche de l'expression d'une certaine culture.
Je me souviens une fois, Ferit Bouguédir me disait, ce qui me frappe dans le cinéma des cinémas d'Afrique, notamment celui de Kaboré ou d'Idrissa, c'est que au moment où on dirait cut, hein, c'est-à-dire qu'on couperait, eh bien, ça dure un peu plus longtemps. Et ce un peu plus longtemps fait qu'il y a une certaine grâce qui s'inscrit dans l'image.
Et cette grâce et la profondeur des thèmes abordés ont permis à Idrissa Ouédraogo d'avoir cette visibilité dans les salles internationales et les festivals comme à Cannes. En 1990, il remporte le grand prix du jury pour son long métrage Tilaï, la transposition d'une tragédie grecque dans l'Afrique contemporaine.
Merci à vous Eva Gédenac. La justice nigériane libère 475 nouveaux membres présumés de la secte islamiste Boko Haram au terme d'un procès de masse où la majorité des personnes inculpées n'ont pu être condamnées faute de preuves suffisantes. La majorité des procès, les premiers du genre au Nigeria, se sont déroulés à huis clos aux grand dam des organisations de défense des droits de l'homme. Une fusillade dans le nord du Daghestan à Kizliar, dans le nord de cette république du Caucase. Un homme armé d'un fusil de chasse et d'un couteau a tué 5 femmes qui sortaient d'une église en criant à la Wakbar, selon le directeur adjoint de l'antenne locale du comité d'enquête. Lutter contre les préjugés, aiguiser les curiosités pour en finir avec l'islamophobie, une urgence en partage en Europe occidentale. Les autorités britanniques ont organisé ce dimanche une opération portes ouvertes dans les mosquées. Un reportage que l'on vous proposera en fin d'édition, le temps d'établir une liaison avec Londres. Venimeuse passe d'armes aujourd'hui entre Israël et l'Iran. Le Premier ministre israélien a menacé de représailles, je cite, « les tyrans de Téhéran ». Une sortie caricaturale a répliqué Téhéran. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que des unités militaires et des troupes en nombre n'attendent plus que le feu vert de Damas pour relancer un assaut majeur sur la Ghouta orientale à l'est de la capitale. La Ghouta orientale sous les bombes depuis le 5 février dernier, au moins 250 civils tués selon l'OSDH. Le Front National embourbé est perdu et ne cherche plus qu'à faire vivre la petite boutique. Ainsi, Florian Philippot commente-t-il le présent de la formation dont il était numéro 2 il y a si peu. Les Patriotes, c'est le nom de son nouveau parti. Les Patriotes réunis à Arras dans le Pas-de-Calais, tandis qu'à Laon, dans l'Aisne, Marine Le Pen a tenu meeting, une escale à Laon dans le cadre d'une tournée dite de refondation avant le congrès à la mi-mars. Anne Fauquemberg a suivi cette réunion.
Marine Le Pen a beau se défendre d'une refondation cosmétique, son discours n'est pas si éloigné de celui de sa campagne électorale. Elle prend acte de la recomposition politique en cours, présente sa ligne nationale souverainiste chère aux électeurs du nord de la France, le tout en évitant le mot « patriote », Marine Le Pen sans concession avec son ancien bras droit.
Il n'a pas d'espace politique, il n'a pas de spécificité à offrir dans l'éventail de la vie politique. Il a très peu d'adhérents et encore moins d'électeurs.
Puis elle déroule ses objectifs pour les mois qui viennent, acquérir la culture des alliances pour les européennes, s'inscrire dans une logique de gouvernement et non plus d'opposition, le tout sur fond de toilettage des statuts et d'un changement de nom plus que probable dans les mois à venir.
Nous fermons un chapitre en quelque sorte de l'histoire de notre mouvement et nous en ouvrons un autre. Et j'espère que les adhérents me suivront dans cette proposition que je leur ferai de faire correspondre avec un nouveau nom, une nouvelle culture au sein du Front National.
Mais pour les nombreux adhérents présents, la continuité, elle fait sens, pas besoin de changement de nom, estiment Alexandre et Louis-Marie qui viennent respectivement de Calais et de Béthune.
Elle peut le mettre en avant, mais après, chacun, si elle veut le changer, elle le changera. Mais pour nous, ça changera rien. Et ça changera rien pour personne, je pense. Ça changera pas l'image du Front National.
Étant là depuis plusieurs années et beaucoup d'années, je pense que le Front National est un nom qui correspond tout à fait à ce parti. Mais chacun est libre de pouvoir réfléchir et de pouvoir penser différemment de moi, évidemment.
Un changement de nom qui suscite aussi des remous familiaux. Dans le journal du dimanche ce matin, Jean-Marie Le Pen encourage les congressistes à rejeter cette modification en mars prochain. Une provocation de plus pour Marine Le Pen, mais qui voile néanmoins son exercice de pédagogie.
Anne Fauquemberg avec à la technique François Rivalan. Bonsoir Jean-Yves Camus.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur, vous êtes politologue et merci d'avoir accepté notre invitation. Un premier mot sur ce que vous venez d'écouter, j'imagine, cet échange à distance entre les patriotes et le Front National en pleine refondation.
Quand on regarde tout cela du point de vue de ce que la science politique enseigne et un petit peu partout en Europe, on est forcé d'admettre que même si Florian Philippot a une spécificité, la sortie immédiate de l'Europe et de l'euro, et il est exact qu'il y a peu de cas où deux partis sur le créneau proche des droites populistes réussissent à survivre. Ça peut durer quelques années. Au bout d'un moment, il y a un test de vérité qui est généralement une élection importante et qui pose la question de la survie d'une des deux formations, en l'occurrence de celle qui est minoritaire.
Mais vous voulez dire que les élections européennes peuvent être ce test de vérité ?
Bah, les élections européennes peuvent être effectivement ce test de vérité, d'abord parce qu'au bout d'un moment, il faut avoir des ressources pour survivre, et que même si Florian Philippot a fait le choix assez avisé de la petite boutique, comme il dit, même une petite boutique ne peut pas durer toujours. Il y a évidemment des petits mouvements qui existent et qui sont déjà partis du Front National avant lui, je pense notamment au Parti de la France de Karl Lang, avec des résultats électoraux qui sont, dans certaines élections partielles, à peu près semblables à ceux des patriotes, mais en termes de visibilité, c'est pas grand-chose et ça grippe pas énormément la mécanique frontiste.
Jean-Yves Camus, restons-en justement à ce paysage politique européen auquel vous avez fait allusion. Bon, un premier constat, il y a d'autres extrémités politiques à la hausse en Italie, en Allemagne, où le AfD, Alternative für Deutschland, talonne le SPD, en Autriche, le FPE, qui a quand même la vice-présidence et bien d'autres ministères régaliens. Bon, comparaison n'est pas raison, les systèmes électoraux sont bien spécifiques, mais existe-t-il, c'est là ma question, des zones assurées, des zones en partage entre toutes ces démocraties occidentales.
Il existe effectivement des zones assurées. Le terme est excellent parce qu'il n'y a pas au fond d'identité entre ces mouvements dans la mesure où chacun évolue dans un pays qui possède ses spécificités historiques, idéologiques et, vous l'avez souligné, son mode de scrutin qui détermine quand même beaucoup de choses. Mais il y a un fond commun qui est le nationalisme, incontestablement, l'opposition au multiculturalisme et le scepticisme
au minimum, face à la manière dont fonctionne l'Union européenne. Nous avons toute une palette d'attitudes, depuis la volonté de changer l'Union européenne de l'intérieur jusqu'à celle de la quitter immédiatement, mais on peut estimer que c'est en quelque sorte le socle commun. Je parlais du refus du multiculturalisme, bien évidemment, la volonté au minimum de réduire très drastiquement l'immigration, au maximum de l'arrêter totalement, fait également partie de ce programme minimum en commun. C'est ce qui détermine l'existence d'une famille politique qui a d'ailleurs ses propres instances supranationales, aussi bien au Parlement européen où il existe un groupe
parlementaire transversal qui traverse effectivement toutes ces formations, hein, qui rassemblent.
Voilà, et puis également en termes de partis politiques européens, puisque à l'intérieur des 28, il y a la possibilité de former des partis qui sont transnationaux, qui reçoivent un financement européen, et effectivement, il en existe, le Front National est dans cette dynamique-là aussi.
Jean-Yves Camus, est-ce que les social-démocraties, qui enjambent la droite et la gauche, pour le dire rapidement, sont des digues supposément efficaces contre cette montée des populistes, des souverainistes, des nationalismes ?
Non, ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. La droite aussi, la droite conservatrice et libérale, la démocratie chrétienne, sont tout autant des digues. Et on a vu en Allemagne la fermeté avec laquelle Mme Merkel s'opposait à l'alternative pour l'Allemagne. Donc on peut effectivement considérer que la social-démocratie est une réponse. Mais il existe au sein du spectre le plus large des droites d'autres alternatives.
Alors, venons-en pour terminer, revenons-en, si j'ose dire, pour terminer à la situation toute française. Est-ce que M. Macron et sa formation, La République En Marche, peut justement, en enjambant droite et gauche, peut lutter, peut être une structure qui peut lutter frontalement, si je puis dire, avec ces deux extrêmes droites?
Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait tout simplement au moment de l'élection présidentielle, avec un score qui est totalement sans appel au second tour. Emmanuel Macron a réussi à maintenir Marine Le Pen en lisière du pouvoir. Ça ne veut pas dire que Mme Le Pen n'ait pas réussi un score qui, à la fois en nombre de voix...
J'allais vous dire 11 millions d'électeurs, je crois.
Oui, oui, c'est effectivement un score qui est d'abord historiquement le plus haut. Et ensuite, ça n'est pas un score négligeable. Mais enfin, malgré tout, la marge dont a disposé le président de la République au score du second tour est quand même assez énorme. Si vous voulez, 65%, c'est vraiment une victoire sans appel. Après, la difficulté, ça va être évidemment de transformer cette dynamique-là avec les élections européennes et les scrutins suivants. Ce qui est intéressant dans la démarche d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, c'est que c'est tout de même la première fois qu'un président de la République est élu qui vienne totalement du dehors des appareils politiques, et qu'on a là un bouleversement de la carte politique française qui force aussi le Front National à se repositionner, à se redéfinir.
Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Jean-Yves Camus, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir commenté cette page politique de ce dimanche. Le temps de demain lundi, Mossad à l'ouest, quelques éclaircies à l'est après lever des brouillards matinaux, ciel très lumineux des Alpes au golfe du Lion, température minimale comprise entre moins 4 et moins 1 degré sur un bon quart nord-est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, de 2 à 8 degrés ailleurs. Édition préparée avec Caroline Beneteau. Toutes les excuses de la rédaction pour l'absence du reportage promis est prévu à Londres, faute de liaison technique.